Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Sud Radio C'est ça la France, midi, midi 30, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, l'émission est consacrée aux entrepreneurs qui innovent et qui n'hésitent pas à aller sur le terrain des grands groupes, des multinationales installées parfois depuis plusieurs années, en proposant une offre alternative, souvent portée par des valeurs communes, sociales, écologiques. Par exemple, tout à l'heure, vous découvrirez une innovation française qui souhaite participer à la reprise du secteur touristique en France en permettant aux acteurs du tourisme, hôteliers, agences de voyage, d'enrichir l'expérience du voyage. Et oui, ça tech à un secteur très embouteillé, avec les grandes centrales de réservation mondiale que l'on connaît tous, telles que Booking ou Expedia. Désormais, il faudra compter avec Tiwin, cette innovation technologique française, au service de la reprise touristique. C'est tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir un jeune homme qui a décidé de repenser la livraison à domicile en proposant une livraison collaborative. Livrer des courses entre particuliers, et oui, vous allez voir, c'est innovant dans ce secteur-là. Ça ne nous a pas échappé hein, depuis le confinement. Le monde appartient aux livreurs, on les croise toute la journée à vélo. Shopopop a été fondé en 2016 à Nantes et compte plus de 500 000 utilisateurs réguliers. Surtout, au mois de mars dernier, Shopopop a passé le cap du million de livraisons réalisées depuis sa création. Une belle entreprise Made in France, on en parle tout de suite avec son fondateur.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes avec Johan Rico, cofondateur de Shopopop. Bonjour Johan.
Bonjour.
Alors expliquez-nous justement en quoi ce concept se distingue de ce qui existe déjà dans l'univers de la livraison.
C'est effectivement une innovation au sens d'un nouvel usage, puisque finalement ce sont des livraisons qui vont être effectuées par un particulier. Donc ce sont des gens qui profitent d'un trajet régulier ou éventuellement quotidien, qui vont récupérer une commande des produits au départ d'un magasin, qui vont les livrer au domicile d'une personne.
En allant à l'école, allant faire leurs courses, au travail.
Exactement, et ils vont récupérer pour ça 5, 6, 7 euros. Donc on est vraiment sur un usage qui est similaire au covoiturage. Et c'est pour ça qu'on nous donne assez régulièrement l'étiquette du blablacar de la livraison.
C'est assez étonnant, la livraison collaborative. Alors, comment ça se passe concrètement? On a une application?
Oui, pour les gens qui veulent faire des livraisons, ça passe à travers l'application Shopopop, donc qui est disponible sur iOS et Android. On va pouvoir créer son compte et puis en fonction de sa position, on va voir s'il y a des livraisons disponibles autour de soi. On a la liberté de la réserver si on est disponible et que ça correspond à son trajet. Et autrement, de l'autre côté, si on veut se faire livrer, on va passer directement depuis les sites des magasins. C'est-à-dire que nous, Shopopop, on va lier des partenariats avec les enseignes et vous allez pouvoir, au moment où vous faites vos courses, demander à vous faire livrer par ce modèle.
Et donc, il y a un shopper qui va s'occuper de livrer vos courses. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, hein, c'est un membre de la communauté.
C'est exactement ça. Ce sont des gens qui s'inscrivent. Alors, ça peut être des fois un voisin, ça peut être quelqu'un que vous allez peut-être connaître. Ça peut être un client du magasin qui aura été récupérer sa propre commande et qui va récupérer la vôtre au passage. C'est vraiment ouvert à tous. On est vraiment sur un usage qui est collaboratif. On ne reprend pas les codes de ce qu'on peut connaître sur les plateformes ubérisées dont vous faisiez un peu parler, introduction avec les systèmes de livraison sur les restaurants, avec les personnes à vélo.
Uber Eats ou bien Deliveroo, oui, les principaux.
Voilà, ouais. On n'est pas sur ces modèles-là, on est vraiment sur un usage qui se veut accessible à tous, sans contrainte d'auto-entrepreneur, sans être dans une logique professionnelle.
Donc, ce qui veut dire que le particulier livreur est payé dans le cadre de sa livraison. Comment on s'est budgété ça?
Alors, le particulier livreur va recevoir un dédommagement qui va être proportionnel en fonction de la distance, de la volumétrie de la commande. Et en fait, c'est ce qui est finalement payé par le client. En tant que client, vous allez payer des frais de livraison et c'est ce qui va servir à dédommager le particulier livreur. En moyenne, ça va osciller entre 6 à 8 euros.
Parce que finalement, on le voit souvent dans les entreprises, dans les hypermarchés, il y a des offres de livraison. Après tant de commandes, la livraison est gratuite. Et finalement, tous ces grands groupes, hein, Leclerc, Casino, Système U, Intermarché, travaillent avec vous. Enfin, beaucoup de ces magasins travaillent avec vous. Comment vous expliquez? C'est plus avantageux pour eux, finalement, d'aller vers ce type de livraison collaborative plutôt que de garder ce qui existait jusqu'à présent chez eux?
Oui, c'est un premier avantage, en fait, c'est que c'est un modèle qui, en termes d'investissement pour le magasin, est beaucoup plus léger. Il n'y a pas besoin d'aller, finalement, faire l'acquisition de camions, d'avoir du personnel dédié à cette livraison.
Des frais de logistique, d'infrastructure, il n'y a pas tout ça, en fait, à engranger.
Voilà. Et à côté de ça, en fait, le modèle Shopopop, il vient aussi cohabiter avec des systèmes traditionnels où, finalement, si l'activité du magasin fait que le camion est déjà à saturation dans l'optimisation des tournées, ShopUpUp va permettre de finalement absorber un excédent de demandes. Donc, on est aussi complémentaire sur des solutions traditionnelles.
Donc, c'est aussi grâce à ça que vous avez pu vous déployer aussi vite. Hein. C'est tous ces accords qui ont été passés avec les acteurs majeurs de la grande distribution.
Oui, ça fait 3 ans maintenant qu'on accélère fortement avec la grande distribution, notamment alimentaire. On déploie aussi notre solution maintenant sur la grande distribution spécialisée et pour les commerçants de proximité. Donc, que finalement, vous soyez un grand groupe ou un commerçant de centre-ville avec une boutique indépendante, je dis n'importe quoi, un fleuriste, un caviste, tout ce genre de choses, vous pouvez aussi du coup travailler avec nous.
Donc, si on résume finalement, pour le client, le livreur, le particulier livreur, c'est une sorte de pourboire en fait à chaque livraison. Donc, c'est toujours intéressant. Et par ailleurs, pour celui qui reçoit donc la livraison chez lui, c'est quoi? C'est la flexibilité, c'est de savoir qu'on peut se faire livrer à des heures, à une amplitude horaire bien plus importante que si on était à des ouvertures, on va dire des horaires d'ouverture beaucoup plus stricts de magasins. C'est quoi tous ces avantages si on devait les lister pour le client?
Les avantages pour le client, c'est de pouvoir avoir effectivement une amplitude horaire qui peut être plus forte, éventuellement pour le magasin de réussir à proposer plus de livraisons sur le créneau horaire qui va être très demandé. Typiquement,
oui,
on pense
vrai.
Souvent au créneau du soir. Et ensuite, c'est aussi de pouvoir finalement avoir recours à un service qui va apporter une autre dimension à la livraison, une dimension environnementale, puisqu'on s'appuie sur une logique de mutualisation d'un trajet et d'un transport. Donc, on ne vient pas mettre des camions ou des véhicules sur les routes. Une dimension sociale, puisque finalement, la personne qui va vous rendre service, elle le fait certes avec une petite motivation économique, mais il y a aussi malgré tout la motivation du rendre service qui est très forte. Donc, ça peut être, comme on se le disait, un voisin ou éventuellement un étudiant. Enfin, il y a une autre dimension à travers ça. Et du côté shopper, donc les particuliers livreurs, comme on les appelle chez nous, c'est effectivement un petit complément de revenu. Ça vient mettre du beurre dans les épinards. C'est peut-être 80, 100 euros à la fin du mois. Donc, ça participe aussi au fait de se dire que dans le quotidien, on peut avoir des petits plus comme ça. Ce n'est pas un salaire, ce n'est pas un revenu, on n'est pas sur une activité professionnelle.
Et comment vous faites pour vérifier justement que les shoppers sont bien dans l'entourage? Parce que l'idée, c'est quand même de rester dans du circuit court pour éviter justement qu'un shopper utilise ça comme une sorte de livraison quotidienne et quitte finalement le principe même de ShopUpUp qui est vraiment de créer des espèces des communautés en fait élargies, hein, vraiment avec cette idée d'être dans l'économie circulaire, réduire l'empreinte carbone. Donc il y a tout ça aussi, hein, toutes ces valeurs derrière. Comment vous faites aussi pour les contrôler?
En fait, on s'appuie sur la data, la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va notifier les personnes en fonction d'un trajet préférentiel qu'elles vont renseigner ou qu'elles vont avoir l'habitude de faire, en fonction de magasins préférentiels que l'utilisateur a la possibilité de choisir. Et également, finalement, sur le volet de l'usage, on a un algorithme de visibilité qui va permettre de rendre visibles les livraisons à réaliser en fonction de votre dernière activité, pour justement ne pas rentrer dans la déviance se dire que je vais faire ça toute la journée, toute la semaine.
Alors au mois de mars, je le disais tout à l'heure, hein, ShopUpUp a passé le cap 10 millions de livraisons réalisées depuis sa création. Aujourd'hui, le service est disponible dans 11 200 villes, j'ai pu lire, hein, dans la France entière quasiment.
Le service est disponible sur toute la France, la Corse comprise. Et effectivement, on a desservi plus de 15 000 communes jusqu'à maintenant. Donc, on a effectivement une couverture territoriale qui est complète. Et depuis même maintenant 5 mois, on a entamé un développement à l'international puisqu'on opère en Italie, en Belgique et au Portugal.
Vous attendiez un tel succès?
On avait cette ambition. On avait l'ambition avec Antoine depuis 2015 de créer un nouveau standard de la livraison à travers ce modèle collaboratif. C'est chose faite finalement. On partage maintenant toujours cette ambition de l'étendre à une échelle européenne. Et on a coché une première case de cette ambition en se disant que voilà, ShopUpUp est aujourd'hui le leader et l'acteur reconnu sur ce modèle de livraison. Donc, on continue notre aventure entrepreneuriale à travers ça.
Il y a des équivalents d'ailleurs ailleurs en Europe?
Pas sur un modèle 100% collaboratif. On va retrouver des équivalences alors sur un marché US américain avec un acteur comme Instacart. On va avoir après plutôt des modèles dits ubérisés à l'étranger, où on va retrouver ces concepts de livraison avec des personnes auto-entrepreneurs, à vélo ou éventuellement en scooter. Mais un modèle 100% collaboratif, aujourd'hui, on n'en a pas identifié, on n'en connaît pas. Alors peut-être que certains émergeront, mais si on reste cet acteur de référence à l'échelle européenne, on aura nos cartes à jouer.
Donc c'est une innovation 100% française. On peut être fier.
Exactement.
Et la prochaine étape, on l'a compris, hein, c'est déploiement en Europe, dans un premier temps.
Exactement, oui. Ben aujourd'hui, sur trois pays.
Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes le cofondateur de Shopopop. Merci beaucoup, Johan Rico. Et longue vie
merci.
À Shopopop.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, on va se quitter un court instant et on se retrouve juste après, cette fois-ci avec une autre innovation technologique française qui, là aussi, est en train de s'installer dans l'univers touristique. On en parle tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Sud Radio, c'est ça la France, midi 30, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, on s'intéresse aux entrepreneurs qui innovent et qui n'hésitent pas à aller sur le terrain des grands groupes, des multinationales installées depuis plusieurs années. On va découvrir tout de suite une innovation française qui souhaite participer à la reprise du secteur touristique.
Sud Radio, C'est ça la France.
Et on en parle tout de suite avec le cofondateur de Funbraise et surtout de Tiwin, Jean-Vincent Petit. Bonjour Jean-Vincent.
Bonjour Nathalie.
Alors, ravi de vous voir. C'est bien parce qu'aujourd'hui avec la radio, on peut s'entendre et aussi se voir. C'est un bonheur. Alors, justement, ce qui est intéressant avec justement Tiwin, hein, qui est vraiment la dernière innovation de Funbraise, spécialisée dans tout ce qui est touristique. Vous êtes sur le Grand Ouest, vous. Hein, c'est vraiment Normandie-Bretagne essentiellement ?
Tout à fait. C'est le Grand Ouest sur une zone qui va, on va dire, de La Rochelle, Le Mans, Deauville, jusqu'à Ouessant, de l'autre côté, la pointe bretonne.
Alors justement, chez Funbraise, vous avez mis au point une toute nouvelle technologie qui va permettre justement aux hôteliers de parfaire leur offre, de dynamiser leur offre touristique. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement tout ça ?
Tout à fait. Alors, Tiwi, donc nous, Funbraise, on est en effet une agence événementielle donc qui organise des séminaires d'entreprise. Et puis, on a une autre casquette, on est agence de voyage réceptive, c'est-à-dire qu'on organise des séjours exclusivement sur le Grand Ouest de la France. Quand il y a eu le début de la Covid, dès le mois de mars, on a bien compris que pour les secteurs du tourisme et de l'événementiel, tout serait différent.
Bien sûr.
Et qu'on vivait une véritable déflagration. Donc, on s'est mis autour de la table avec plusieurs acteurs de toute la chaîne touristique. Et on a donc inventé Tiwin. Donc, c'est une technologie née du Covid, on va dire. Et en fait, c'est une technologie qui va permettre, c'est un simple widget qui s'installe sur le site d'un hôtelier et qui va lui permettre de montrer à ses clients tout le champ des possibles autour et à partir de chez lui, que ce soit pour des clientèles individuelles, groupes ou même séminaires.
Donc, on met en relation l'hôtel avec tous les partenaires locaux qui l'entourent, c'est ça, pour essayer de... Densifié.
Alors, pas tout à fait. En fait, l'hôtelier va s'appuyer sur des agences réceptives privées. Ah. Donc, ces agences sont, comme les Funbraise sur sa région, sont des spécialistes de leur territoire qui ont l'habitude de concevoir des offres clés en main, des offres all-inclusive. Et en fait, l'agence réceptive va travailler avec l'hôtelier pour concevoir des séjours clés en main qui vont valoriser l'ensemble de l'écosystème de l'hôtelier et l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'hôtelier. Et d'aller dénicher
la perle rare, l'expérience unique. On est vraiment dans le tourisme de proximité avec vous.
Voilà, on est vraiment dans le tourisme de proximité. On est dans l'authentique, on est dans le partage, on est dans le vrai, j'allais dire dans le vrai séjour, le séjour expérientiel qui favorise, en favorisant les circuits courts, hein, les prestataires que l'on choisit, les restaurateurs que l'on retient, sont tous des acteurs qui valorisent l'écosystème autour de chez eux, en fait.
Donc, on est vraiment... ce que vous avez constaté, hein, ça, d'une manière générale, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne cherchent plus à consommer, mais à vivre les choses. Le voyageur est moins passif qu'avant.
Oui, oui, ce que l'on voit, la tendance lourde qui semble se dessiner pour l'après-Covid, c'est vraiment que les séjours où je consomme mon séjour, finalement, c'est plus ou moins terminé. C'est-à-dire que les clients vont sans doute préférer faire beaucoup moins de choses pendant leur séjour, ou du moins peut-être plus de choses, mais sur une zone géographique beaucoup plus petite pour profiter et pour rencontrer, pour aller à la rencontre, pour vivre, quoi, pour être pour être dans la rencontre.
Alors justement, comment ça se passe au niveau... qui va alimenter toute cette base de données, produire toutes ces idées de voyages qui vont aider l'hôtelier à valoriser les richesses de sa région et proposer aussi des expériences uniques à ceux qui viendront chez lui?
Voilà, donc Tiwin, en fait, c'est vraiment une technologie dont l'objectif, c'est de valoriser toute la chaîne touristique et de faire en sorte que toute la chaîne touristique travaille... que chacun des maillons en fait puisse travailler entre eux et de manière efficace. Donc, Tiwin, c'est pas que Fundraise. Tiwin, c'est derrière beaucoup de monde. C'est des réseaux d'agences réceptives. Fundraise fait partie d'un réseau qui s'appelle France DMC Alliance, qui est un réseau d'agences réceptives, de 25 agences réceptives qui sont réparties partout sur le territoire français et qui donc produisent tous les jours, parce que c'est leur métier, des séjours clés en main, all inclusive, qui vont donc pouvoir être déposés chez les hôteliers. Et si on prend, au niveau, hein, pour vous donner quelques chiffres, Tiwin, donc c'est une technologie qui est sortie début octobre 2020, donc il y a une technologie récente, qui a été choisie quasiment dès le départ par les hôtels de charme et caractère de Bretagne, c'est une cinquantaine d'hôteliers. Ensuite, par une coopérative, une association de châteaux qui s'appelle Bienvenue au Château.
Donc, il y a une centaine Château de la Loire, de ce côté-là.
Les châteaux, vous pouvez privatiser même ou juste aller dormir pour une nuit. Et puis, tout dernièrement, la technologie a été retenue par une coopérative qui s'appelle The Originals et qui rassemble 450 hôtels sur toute la France.
Alors, comment vous faites justement pour vous distinguer? Je le disais tout à l'heure, hein, Expedia, Booking aussi, c'est des grosses multinationales qui ont essayé d'aller sur ce terrain-là, mais elles sont pas sur le même, c'est pas la même offre en fait. Vous, c'est vraiment une offre beaucoup plus unique, en fait, singulière, originale.
Oui,
on est dans du local, quoi, du très local.
Oui, voilà. On n'est pas du tout sur ce même positionnement qu'un Booking ou un Expedia, puisque nous, notre métier, c'est de connaître parfaitement les acteurs avec lesquels on travaille. C'est-à-dire, ce sont des gens, des personnes que l'on a rencontré. On rencontre
bien
les hôteliers, les prestataires, on rencontre l'ensemble des acteurs et on va choisir tel ou tel acteur, non pas parce qu'il est numéro un sur Internet et numéro un en termes de référencement, mais parce que l'expérience qu'il va proposer à notre client, à nos clients, bah, est différente, qui va être plus proche de nos clients et on valorise un écosystème, en fait, qui, oui, c'est ce que vous avez dit, c'est du local, on monte des offres, clé en main, local.
Quel bilan vous dressez alors au bout de 8 mois? C'est vrai que c'est tout récent, Tiwin.
On tire un très, très bon bilan parce que c'est une technologie donc, qui est simple, qui est efficace, on va dire qui est un peu disruptive sur le marché.
Bien sûr.
Et où chacun des acteurs de la chaîne touristique va pouvoir se l'approprier. Ce qui fait que ça fait tache d'huile. Un hôtelier en parle à ses agences réceptives qui elles-mêmes vont en parler à d'autres hôteliers. Et donc aujourd'hui, bah, il y a plus de 600 agences de voyage. Parce qu'en fait, c'est Tiwin, si on a parlé de la partie hôtelière, mais c'est également des agences de voyage qui proposent l'ensemble des séjours qui sont proposés également chez les hôteliers. Et aujourd'hui, une agence de voyage propose plus de 500 séjours sur toute la France. Donc en fait, on voit que tous les maillons de la chaîne, les hôteliers, les prestataires, les agences de voyage, propose la technologie. Il y a 600 agences de voyage aujourd'hui. Il y a en gros 600 à 700 hôteliers qui l'ont installé ou qui sont en train de l'installer. Il y a une trentaine, quarantaine d'agences réceptives qui sont en train de concevoir des offres, donc des dizaines d'offres. Et tout ça, en fait, c'est de l'offre locale mise en place par des acteurs locaux, par des agences réceptives qui connaissent parfaitement
leur territoire.
Leur territoire, les acteurs de ce territoire et qui savent ce qui doit être proposé, comment ça peut être proposé pour plaire aux clients et leur proposer des vraies aventures, enfin des vraies expériences authentiques sur le territoire pour leur séjour ou pour leurs vacances.
Vous avez dit que c'était en deux mots, c'est disponible dans toute la France. Donc pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut retrouver justement toutes ces agences de voyage, ces hôtels qui font confiance à Tiwin et qui proposent justement ces voyages qui se veulent vraiment des voyages uniques, hein, basés sur le local essentiellement. Où est-ce qu'on peut retrouver justement toutes ces agences et hôtels?
Alors, sur le site tiwin.fr, il y a toutes les expériences des hôtels, tous les hôtels qui ont témoigné, qui sont remontés. Et puis, il y a une carte qui est en train d'être mise à jour avec l'ensemble des agences où vous pouvez retrouver toutes ces offres. Et puis sinon, en nous appelant sur chez Fundraise.
Merci beaucoup, Jean-Vincent Petit, cofondateur de Fundraise, qui a lancé cette nouvelle technologie T-Win pour justement aider à la reprise du tourisme en France. Et on espère que vous serez d'ailleurs nombreux à aller profiter encore du territoire France hein, cette année, comme l'année dernière, parce que je crois que beaucoup ont pris plaisir à redécouvrir leur pays. Merci beaucoup, Jean-Vincent Petit, et bon dimanche.
Merci, Nathalie.
Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, de quoi allez-vous nous parler cette semaine ?
Eh bien, il y a quelques temps, je vous avais emmené en visite dans le village de Lagrolet, dans le Gers.
C'est vrai.
Où le maire, Nicolas Miellet, a créé la première cantine bio d'Occitanie. Et je n'ai pas eu le temps de vous raconter que j'ai déjà dans cette cantine scolaire, digne d'un très bon restaurant. Et ce n'est pas un hasard, parce que c'est une chef passionnée que l'on retrouve derrière les fourneaux. Elle s'appelle Laurence Blondeau, et chaque jour, elle prépare 40 repas pour les enfants.
Ils ont de la chance,
ils ont de la chance,
enfants.
Avec uniquement des produits de qualité. Écoutez, elle nous explique ce qui était au menu le jour où je lui ai rendu visite.
Alors, j'avais fait donc un petit velouté de rutabaga. On est sur la fin des légumes anciens, là, parce que j'espère que maintenant, il va faire beau. Et sur la fin des soupes. Ensuite, on avait des pilons de canard fermiers, puisqu'ils sont faits là à côté.
Du Gers.
Du Gers, même de d'Aignan, donc juste vraiment le village à côté. Voilà. Et donc, on les a fait voyager un peu quand même, parce que c'est toujours intéressant, même pour les enfants. On essaie de faire des choses et bio. Et moi, ce qui est très important en tant que restauratrice, c'est d'ouvrir les goûts pour le futur, quoi, parce que je ressens que les goûts se referment un peu. Et donc, on l'avait fait à la chinoise. Je l'avais fait à la chinoise avec des pâtes au riz croustillantes. Et puis, un petit dessert avec un yaourt bio local. Et puis, des petites prunes de jardin au sirop qu'on fait l'été. Voilà.
Ils aiment ça, les enfants?
Alors oui, qu'ils aiment. C'est-à-dire que si je leur fais des pâtes et du riz tous les jours, ils vont préférer. Mais on est là pour justement les guider vers d'autres choses donner du rêve à la cuisine. Mmh. Parce que c'est ce qui est intéressant, surtout dans les cantines. Je pense que c'est là qu'il faut démarrer au niveau des enfants et créer vraiment le goût de vivre ouais. Aussi.
C'est un challenge ou pas tous les jours cuisiner en circuit court, cuisiner en bio, c'est compliqué ?
Alors ça a été très difficile pour moi au démarrage, moi ça fait 4 mois que je suis là, donc moi je viens de la restauration classique.
On va en parler tout à l'heure.
Voilà, et du coup, il y avait déjà le terrain qui était préparé puisque au niveau du bio. Et après, c'est pas facile au niveau de l'épicerie. Parce qu'ici, évidemment, on n'a pas tout, on n'a pas le sucre, etc. Mais là, on travaille avec une boîte qui est très bien, qui est bien placée aussi. Parce que moi, mon souci, ce n'était pas de prendre la voiture et d'aller chercher à chaque fois, c'est d'être livré quand même un maximum. Ouais, ouais. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer un maximum de temps dans ma cuisine.
Ouais. Dis donc, vous nous mettez l'eau à la bouche avec tout ça. Mais surtout, il faut le dire, les élèves de l'Agrolet, ils ont une chance incroyable.
Oui, c'est incroyable. Ça devrait être un modèle d'ailleurs pour toutes les cantines scolaires.
Oui, elle permet donc de développer leur palais. On a beaucoup parlé des épices et des légumes. Et qu'en est-il des viandes ? Est-ce qu'il n'est pas... C'est pas trop difficile de se fournir là aussi en bio, en circuit court, dès qu'il s'agit de viande ?
Là aussi, ils ont de la chance parce que tout autour du village, il y a plein de petits producteurs et ils se fournissent en bio assez facilement. Et son expérience de restauratrice lui permet de repérer les produits de qualité. Justement, elle va nous expliquer comment elle est arrivée à cette cantine scolaire de l'Agrolet. Elle a d'ailleurs un autre projet dans la commune. Écoutez.
J'ai toujours fait de la cuisine en petite quantité. Les restaurants que j'ai eus un peu partout, c'était pas plus de 40 couverts. Parce que j'aime concentrer les goûts et que j'aime passer du temps avec ma clientèle. Et bien là, ma petite clientèle, elle est sympa.
Ouais.
C'est 40 élèves. Ils sont super bien élevés, ils sont mignons. Évidemment, il y en a qui mangent plus, d'autres qui mangent moins, il y en a qui sont un peu étonnés, mais c'est intéressant.
Alors comment vous êtes arrivé ici ? Je crois que c'est sur annonce.
Alors voilà, oui, parce qu'en fait, moi, je n'avais pas prévu de revenir dans le Gers, bien que ça me manquait énormément. Donc, j'étais aux Canaries et puis je suis tombée sur l'annonce donc par hasard. Et d'accord. Comme je me suis dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie.
Vous avez répondu tout de suite.
J'ai répondu, mais à la condition, c'est-à-dire que j'ai assumé la cantine à condition que je puisse faire ma structure de petit restaurant à côté. Et je n'ai pas eu besoin d'insister parce que pour M. Mélier, il m'a dit c'est exactement ce que je voulais que tu fasses. D'accord. Donc voilà, on était d'accord dès le départ. Parce que moi, j'ai quand même besoin de refaire de la cuisine plus gastronomique, on va dire, sur la présentation, etc. Mm-hmm. Et puis, je pense que c'est un tout avec le gîte, avec il manquait cette proposition gastronomique. Donc un petit restaurant pour une douzaine de personnes sur réservation. Voilà.
Et je crois que le restaurant de Laurence ouvrira très bientôt, hein, c'est bien ça Thibault?
Oui c'est ça, on vous tiendra au courant.
C'est important, on est là aussi à Sud Radio pour soutenir les artisans et on sait qu'ils vont en avoir besoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Oui. Merci beaucoup Thibault, merci. On se retrouve, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien et passez un bon dimanche.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.